De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, c'est De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno et en ce 23 septembre 2016, je suis ravi de vous retrouver. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, GoPro n'est pas mort, GoPro revient avec deux nouvelles caméras et surtout un drone qui s'appelle Karma qui a l'air assez impressionnant. Adrien Branco l'a découvert aux USA, il vient de rentrer, il a un peu jet lagué mais il va tout nous expliquer dans un instant. Et puis on terminera ce De quoi je me mêle avec Victor Jakimovic qui aujourd'hui va nous donner des conseils pour réparer nous-mêmes nos smartphones. Vous faites tomber un iPhone, par exemple, par terre, l'écran est pété. Vous avez deux solutions. Soit vous l'apportez dans un magasin qui va vous le réparer, ça va vous coûter cher. Soit vous pouvez le faire vous-même avec des kits aujourd'hui spéciaux qui viennent de sortir et qu'on peut trouver dans les grands magasins. On va en parler dans quelques minutes. Mon Twitter, F. Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime, soyez les bienvenus.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.
Et ce De quoi je me mêle débute comme évidemment chaque vendredi par le club de la presse IT. À ma gauche, Raphaël Grably. Bonjour Raphaël.
Salut François.
Raphaël qui représente dignement la rédaction de 01net.com. On va jeter un œil sur quelques-uns des titres d'actu qu'on a pu lire cette semaine sur 01net. Premier site d'actualité high-tech en France. Et le premier mag high-tech en France est là, c'est 01net Mag. Et oui, c'est notre petit cousin. Et c'est avec Jean-Marie Portal, rédacteur en chef adjoint. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour François.
Dans un instant, on va parler des foires au vin, les amis. Ah! D'un coup, je vois que quelques yeux se réveillent. Et oui, comment bien choisir sur Internet, comment bien acheter ses bouteilles de vin sur le web ? On verra ça avec Jean-Marie dans un instant. Mais pour débuter l'actu de la semaine, et on va commencer par Allo, Raphaël. Ouais.
La nouvelle appli de messagerie de Google. Donc elle est sortie très récemment, le 21 septembre. Il l'avait annoncé en mai dernier pendant la Google I.O. Alors on l'a testé.
Non pas la Google Allo.
Non pas la Google Allo. D'ailleurs les noms c'est assez bizarre. La messagerie Allo c'est pour le texte. Oui. Et la messagerie où on s'appelle Duo. Bon c'est un peu étonnant. On l'a testé un petit peu avec nos amis Jean-Sébastien Zanqui et Pierre Fontaine. Bon, c'est pas au niveau messagerie, c'est pas révolutionnaire. Il y a du texte, de la photo, des emojis, des stickers. Donc franchement, c'est sympa, c'est bien fait, c'est correct, mais c'est pas révolutionnaire. Par contre, en fait, Google, ce qu'ils veulent faire surtout, c'est privilégier leur assistant virtuel qui s'appelle donc Google Assistant. Et qui va permettre en fait d'être contacté un peu comme Siri, donc on va lui demander, je sais pas, quel temps il fait aujourd'hui, combien a fait, quel score a fait mon équipe de foot préférée, etc. Et là, on va pouvoir discuter avec lui. Il va même pouvoir nous faire des alertes tous les matins. Il fait ce temps-là ici. Votre équipe de foot a fait ça, etc. Et il va pouvoir aussi être inclus dans une conversation. Donc si on met, je sais pas, une photo d'un plat de spaghettis avec des amis, il va nous dire, au fait, si vous voulez manger des spaghettis dans le coin. Vous pourrez aller ici, donc ça peut être un petit peu intrusif, mais c'est vraiment là-dessus que mise Google. Oui,
c'est ce qu'on appelle les bots hein, qui arrivent.
C'est un bot, c'est le bot Google, on va dire, assez généraliste. Et puis l'autre petite spécificité, c'est qu'il y a un mode incognito, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir ouvrir une conversation éphémère, on va pouvoir décider si les messages vont durer, rester affichés 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, 30 minutes.
C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'historique des messages.
Il n'y aura pas d'historique, mais alors en fait, c'est censé privilégier la vie privée, les données personnelles. En fait, c'est un peu la marche arrière, parce que Google avait dit, quand ils avaient annoncé Allo, que les messages ne seraient jamais stockés. Et puis en fait, si, finalement, c'est stocké. Donc voilà.
C'est stocké, mais on ne pourra plus les voir, en fait.
Alors en fait, c'est à la demande. En activant le mode incognito, ce sera plus stocké. Par contre, de façon générale, ça le sera. Eux, leur justification, c'est que c'est évidemment pour que Google Assistant fonctionne mieux en servant notre historique. Bon, le problème, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Voilà.
Bon. Voilà, elle est déjà disponible.
Elle est disponible.
À la fois sur Android, mais elle est aussi dispo sur iOS ou pas ?
Alors, elle devrait arriver sur iOS. J'ai un doute, en fait, pour être très honnête. Il faudrait vérifier ça rapidement parce que j'ai pas d'iPhone sous la main.
Eh bien, écoutez, moi, oui. Jean-Marie Portal, est-ce que vous êtes au courant pendant ce temps-là ? Meublez, s'il vous plaît. Vous savez
vous
très bien le
meuble,
faire.
Je vais vous dire que même sur Android,
sur Android, elle est là.
Google Allo, l'appli messagerie intelligente.
Elle est déjà
là, les amis. Regardez, elle est sur l'App Store.
Voilà, elle est donc arrivée le même jour sur iOS.
Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle à tester.
À tester, c'est une messagerie. Il faut voir si elle va s'imposer parce que c'est quand même assez compliqué. En face, il y a Messenger, il y a WhatsApp.
Ils ont des Hangouts aussi.
Il y a Hangouts. Alors Hangouts, maintenant, ça va devenir un truc un peu plus pro parce que ça n'a jamais vraiment décollé en fait pour le grand public.
Ça devient un peu compliqué quand même.
Ça devient un petit peu compliqué. Chez Google, il y a quand même beaucoup d'applis différentes alors qu'on pourrait peut-être aussi condenser tout ça dans une appli avec le texte, les appels, etc. Bon, on va voir si ça va détrôner WhatsApp. Pour le moment, à mon avis, ça va être compliqué.
Hein. Oui, ça va être sûr, l'idée, c'est de faire la nique aussi au fameux Messenger de Facebook.
Hein. Exactement, mais Messenger plus WhatsApp, tous les deux,
c'est du lourd. C'est du lourd. Oui, d'autant que les deux, en plus, appartiennent à Facebook.
Et les deux appartiennent à Facebook.
On va parler d'Intel maintenant. Intel, vous le savez, le fabricant, le fondeur, hein, qui fabrique des puces pour les ordis, qui a essayé de se lancer dans le mobile il y a quelques années de cela. Ça a été un bid total.
Ouais, ils ont fait des tentatives qui n'étaient pas mauvaises non plus, en fait, avec les Asus Zenfone, par exemple. En fait, ce qu'ils voulaient faire, eux, c'était garder leur architecture, donc la x86, et la porter sur mobile. Sauf qu'en face, il y avait, par exemple, Qualcomm, alors qu'il n'est pas fondeur, hein, qui fait simplement le design, la conception des puces. Mais il y a la technologie ARM derrière qui est bien plus répandue que tous les fabricants maintenant utilisent sur le mobile. Et Intel n'a jamais réussi à s'imposer là-dessus. Donc ils avaient dit en mai, enfin ils avaient sous-entendu qu'ils arrêteraient, qu'ils abandonneraient à ce niveau-là. Sauf qu'entre-temps, enfin un petit peu avant d'ailleurs, ils avaient recruté un ancien pont de chez Qualcomm, donc justement qui utilise ARM, qui est devenu numéro 2 d'Intel. Donc c'est quand même un geste assez fort. Ils ont déboursé 25 millions d'euros pour l'avoir. C'est comme un transfert au foot d'ailleurs. C'est vraiment 25 millions pour le faire venir. Hein. Donc c'est quand même, ils misent assez gros sur lui. Il s'appelle Venkata Rendu Shintala. Donc maintenant vous saurez retenir le nom, je pense.
Enchanté.
Voilà. Et lui, il a déclaré cette semaine que non, a priori, il pourrait tout à fait revenir sur le mobile. C'est pas du tout exclu, qu'il préfère faire plutôt que parler. Donc, il travaille là-dessus. Alors, en fait, la première hypothèse, c'est que du coup, ce sera un petit peu une façon de retourner en arrière pour eux, enfin, de renoncer à promouvoir le X86, mais il ferait du ARM, donc des puces compatibles ARM. Après, il faut voir s'il le ferait en tant que simple fondeur. Par exemple, pour Apple, hein, Apple, ils font le design de leur puce. Donc, peut-être
qu'il faut qu'ils sous-traitent quelqu'un.
Il y a un sous-traitant. Alors là, il y a TSMC qui est prévu.
Bendy.
Voilà, exactement.
Comment vous avez dit déjà ?
Alors, Venkata.
Sans
lire. Si, en lisant. Venkata Rendu Shintala.
Ah, voilà, monsieur Venkata, si vous êtes avec nous en vidéo, il a une tête sympa.
Monsieur Rendu Shintala.
Monsieur
Parce que Venkata, c'est son prénom.
C'est Venkata.
Oui. Ah oui, c'est son nom de famille, c'est Rendu
Shintala. Venkata, comme je pourrais vous appeler Monsieur Jean-Marie.
Ouais, c'est bizarre.
Non, ça fait un peu pupus. Ça fait ça sympa.
Et voilà, donc...
La pupus, voilà. Quand on travaille chez Intel, en plus. En plus, on l'avait fait tout à l'heure, juste avant...
Oui, blague.
Ce de quoi je me mêle. Parce qu'on répète tes blagues avec Raphaël.
On répète tout, on est très professionnels.
Exactement. Bon, voilà.
Donc,
on verra bien. Mais c'est vrai qu'il se murmure que Apple et Intel pourraient passer un accord majeur pour le prochain iPhone, hein, visiblement.
Exactement.
Il y a déjà l'Intel dans l'iPhone
2017,
7.
Il y a déjà l'Intel au niveau du modem. C'est la première fois qu'il y a un Intel Inside, un iPhone Intel Inside. Alors 2017, a priori, au niveau du fondeur, c'est TSMC qui est assigné.
Oui.
Et peut-être pour les iPhones d'après, ce serait des iPhones avec des processeurs Intel. Voilà. Après, finalement, le concurrent d'Intel, parce que c'est finalement un des seuls qui va à la fois designer le chipset et faire office de fondeur, ce serait Samsung qui pourrait faire la même chose.
L'amour du risque, je suis en train de lire les bonnes blagues des titres sur zeronet.com. Elle est vraiment excellente. Ça, c'est vraiment une blague de geek en plus. Hein. Risque, quand ça s'écrit.
Ça, faut comprendre.
R-I-S. Franchement, c'est vraiment un truc de geek. Hein. On va enchaîner, tiens, avec peut-être votre prochain séjour au soleil sera en Corée du Nord, hein, pour passer peut-être une semaine ou deux dans un magnifique resort avec des barbelés autour. Eh bien, sachez qu'on a des informations concernant l'activité Internet en Corée du Nord.
Exactement, oui. Ils ont fait, sans faire exprès, il y a des Nord-Coréens qui ont mis en ligne ce qu'on appelle les DNS, donc les adresses de tous les sites qui existent, qui sont référencés donc, en point KP. En fait, il y en a 28 en tout. Donc, c'est pas
C'est-à-dire qu'en Corée du Nord, il y a 28 sites Internet.
En tout cas, il y a 28 sites. Non, parce qu'il y a un intranet aussi qui est réservé aux Nord-Coréens.
Oui.
Mais les sites Nord-Coréens sur notre Internet, entre guillemets, il y en a 28.
D'accord.
C'est pas énorme.
Parce que rappelons qu'en Corée du Nord, vous n'avez pas accès à Internet.
Non, mais on n'a pas à manger non plus, d'ailleurs.
Non,
donc, finalement.
Voilà. Oui, c'est vrai que l'un dans l'autre.
Ce sont 28 sites gouvernementaux.
C'est 28 sites. Alors, il y a des sites très sympas. Il y a des sites, d'ailleurs, on n'a pas à manger, mais il y a quand même des sites de recettes de cuisine.
Oh, donc,
si
bien.
Par
oh,
hasard, on fait partie.
C'est divertissant quand même.
Si on fait partie des Happy Few qui vont assez à manger, on peut même faire des recettes de cuisine. Mm-hmm. Il y a le site officiel du Festival international du film de Pyongyang. Donc, évidemment, je suppose que vous savez très bien qui a gagné.
Mais bien sûr.
Qui a gagné qui a eu la palme.
C'est Angelina Jolie et Brad Pitt.
Voilà, exactement.
D'ailleurs, ça ne leur a pas réussi quand ils sont revenus de Corée du Nord.
Et puis, il y a aussi. Alors, juste en fait, pour comparer, il y a 28 sites en Corée du Nord dans le jeu GTA V. Vous savez, il y a des sites virtuels aussi, il y en a 83. C'est-à-dire que GTA V a 55 sites de plus que la Corée du Nord. Donc,
en fait,
en comparaison.
En fait, c'est un réseau internet édulcoré, quoi.
Oui mais c'est ça. Y allez, il y a un papier sur TheOnNet.com, on a quelques screenshots, ça ressemble vraiment à Internet de 1998-99.
Ah, le tout début
d'Internet avec des...
Très bien.
Des liens hypertextes.
Enfin, édulcoré, il y avait un jeu de mots.
On plaisante. Édulcoré.
Excusez-moi.
Je l'avais pas percuté.
Et au petit matin, qu'est-ce qu'il mange ? De la chicorée.
De la chicorée.
Comme ça, celle-là. Mais cela dit, il faut garder le mot. Non, il faut pas désintégrer le mot.
Ah bah non, si vous désintégrez, ça.
Oui. C'est moins sympa. Enfin, on plaisante avec la Corée du Nord, mais bien sûr, on prend ça au second degré parce que c'est tout simplement pathétique.
Il faut parce qu'avec la Corée du Nord, on n'a pas trop le choix, malheureusement.
Après la Corée du Nord, la Corée du Sud.
Oui, alors eux, par contre, ils ont de la chance.
Alors eux, ils ont de la chance parce que c'est un vrai pays occidentalisé. Ouais. Enfin voilà, c'est un pays très sympa, la Corée du Sud.
Puis ils font des bons smartphones.
Ils font des bons smartphones qui parfois ont tendance un peu à chauffer quand même.
Voilà, ils ont ça de commun avec la Corée du Nord, c'est au niveau explosif, malheureusement.
Parfois ça chauffe.
Voilà, ça chauffe. Et donc c'est le Samsung Galaxy Note 7 évidemment dont on parle. Il revient en Corée du Sud. Alors je parle pas des programmes d'échange. Là je parle de la remise en vente du smartphone officiel. La Corée du Sud c'est le 28 septembre. Les États-Unis a priori ce serait début octobre comme l'Australie. Et en fait l'Europe finalement ce serait fin novembre. Donc ça fait un peu tard. C'est assez frustrant. On a un peu l'impression de passer.
Ils font un bêta test chez eux si ça explose.
Voilà
chez
exactement.
Eux,
si ça pète pas ça vient en Europe. C'est le directeur marketing Europe de Samsung hein, qui l'a dit, donc c'est une info qui n'est pas une spéculation.
Hein.
Ils ont dit, voilà, ça, on essaiera de le faire revenir fin novembre, ou en tout cas largement avant la fin de l'année. Ouais. Donc en fait, le Samsung Galaxy Note 7, ça devait être un produit de rentrée, finalement, ça va être un produit pour les fêtes de Noël.
Quand je pense qu'on avait ce téléphone en main et qu'il aurait pu exploser à tout moment...
Voilà. Il va falloir attendre un petit peu avant qu'ils reviennent. C'est un peu dommage. Bon, du coup, on voit que Samsung remise à nouveau sur son Galaxy S7. À la télé, ils ont lancé une campagne de pub parce que forcément, en face, il y a l'iPhone 7.
Bien sûr.
Donc ils sont bien obligés. Donc,
qui reste un excellent téléphone.
Évidemment,
le Galaxy Note 7.
Mais le Galaxy Note 7, c'est un super smartphone. On l'a testé d'ailleurs.
Bien sûr.
Il va falloir attendre. Du coup, en France, il y en aura quelques-uns qui l'auront. Bah, c'est ceux qui ont précommandé le Note 7. Et il y a quelques opérateurs qui le livraient avant le 2 septembre.
Ah, d'accord.
Et donc, eux, ils profiteront du programme d'échange finalement et ils auront la chance, ils l'auront peut-être un mois et demi avant les autres.
Très bien. En tout cas, on voit que Samsung veut véritablement récupérer tous les Galaxy Note 7 qui sont dans la circulation.
Ils ne veulent pas risquer, ils prennent aucun risque.
Ils ont fait une mise à jour, c'est étonnant.
Ouais. Voilà.
Et donc, il y a une mise à jour qui se fait sur votre téléphone. Si vous êtes vous avez un facteur de risque élevé pour qu'il explose, et vous avez un message qui apparaît sur votre téléphone en vous disant appelez vite ce numéro de téléphone, etc. Pour qu'on puisse vous le remplacer.
Voilà.
Donc, ils sont vraiment pushy là-dessus.
Elle bride la batterie.
Et elle bride la
à 60% de recharge.
Exactement.
Pour pas qu'elle surchauffe.
Pour pas qu'elle explose.
Donc non, évidemment, là, ils veulent prendre aucun risque là-dessus.
Bien sûr.
Voilà,
vous venez de perdre votre main, appelez ce numéro.
Avec la main qui vous reste.
Plaisante,
bien sûr. Cela dit, avec Siri, on n'a pas besoin de main. C'est ça qui est bien.
C'est ça qui est bien, ouais.
Voilà, c'est un peu graveleux quand même, ce qu'on raconte. On délire un petit peu. Merci Raphaël.
Merci François.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sans les blagues sur zeronet.com. Quoique parfois, il y en a quelques-unes.
Bien
sûr, édulcoré.
Vous vous lâchez un peu, hein ?
Oui, on aime bien.
Ouais. Ouais. Blague de geek. Jean-Marie Portal. La foire au vin, c'est la période actuellement.
Oui, la foire au vin, j'en reviens.
La foire au vin, j'en reviens. Et c'est vrai que Jean-Marie a bien évidemment testé toutes les bouteilles. Qu'il a commandé.
Non,
c'est pas joli.
Je me suis contenté de tester les applis parce que les bouteilles, sinon je serais sous la table là en ce moment.
Parce que la foire au vin, donc, bien sûr, c'est dans les hypermarchés, mais c'est sur le web et c'est de plus en plus sur le web.
Bah, c'est de plus en plus sur le web, c'est de plus en plus ailleurs aussi. Ça devient compliqué maintenant. Tous les magasins bio, les cavistes, les sites internet se mettent à la foire au vin. Et du coup, comment on fait pour trouver les bonnes bouteilles ? Parce que forcément, au milieu des bonnes bouteilles, on a des moins bonnes. Et, je ne sais pas si vous êtes vraiment connaisseur, mais moi, quand j'ai une bouteille en main, savoir d'entrée de jeu si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, c'est un petit peu compliqué.
Bah, il faut vraiment que le vin soit une piquette pour qu'on s'en rende compte. Quoi. Ou alors qu'il
soit à moins d'être connaisseur.
Alors déjà, un petit conseil, on va dire, de départ, avant de parler des applis, c'est que si vous cherchez des grands crus ou vraiment des bonnes bouteilles qui d'habitude sont chères et que là, pendant la foire au vin, vous allez payer moins cher, vous faites déjà l'impasse sur les hypermarchés parce que généralement, les bouteilles n'arrivent pas en rayon. C'est-à-dire qu'elles sont bien dans le catalogue, mais
curieux. Elles sont déjà chez des gens.
C'est curieux. C'est curieux. Vous arrivez en magasin.
Non, monsieur, il n'y en a plus.
Non, on n'en a reçu que quelques bouteilles.
C'est ce qu'on appelle les produits d'appel. Ouais,
c'est ce qu'on appelle les produits d'appel. Par contre, vous en trouverez sur Internet. Donc, si vous cherchez des bonnes bouteilles, plutôt sur Internet. Si vous cherchez de bonnes bouteilles à des prix raisonnables, là, aller en hyper, ça a tout son sens. Le problème, c'est comment s'y retrouver. Et il y a une toute nouvelle appli qui est sortie là, qui s'appelle Grand Testing, et que l'on doit quand même au guide Bétave et de Sauve, donc c'est pas n'importe quoi, qui a recensé, qui a été chercher les catalogues donc, des foires au vin des 12 grandes enseignes d'hyper en France pour évaluer les vins qui allaient être mis en vente. Donc téléchargez cette appli et vous allez pouvoir comme ça trouver les bonnes bouteilles Carrefour, Auchan, je ne sais où. Vraiment, vous y repérez dans les rayons et trouver des bouteilles qui valent vraiment le détour. Alors après, nous, on a d'autres applis aussi. Une fois qu'on est sur place, on se pose la question de savoir mais ça vaut quoi ce vin ? Alors, je sais que vous êtes fan d'ailleurs de cette appli, je crois, François Vivino, non ?
Alors, il y a Wine on Demand.
Ouais, alors, Wine on Demand, on y viendra après parce qu'il y a une petite subtilité intéressante justement sur Wine on Demand. Vivino, c'est le Shazam du vin. Vous prenez la bouteille, votre
vous versez du vin sur le smartphone,
vous versez
il vous
du
détecte
sur
tout de suite.
Sur l'iPhone, qui maintenant est étanche, donc il ne craint plus rien, pour peu que vous ayez un iPhone 7. Et vous photographiez l'étiquette, et là, vous allez avoir toutes les informations concernant ce vin. Vous parliez de Wine and Demon, la différence, ça, c'est plutôt l'appli que vous allez pouvoir utiliser pour retrouver le vin que vous avez trouvé pendant la foire au vin, mais vous ne trouvez plus après. Vous photographiez l'étiquette de la même façon. Les créateurs de l'appli travaillent directement avec les producteurs et pour peu que le producteur soit référencé, vous allez pouvoir commander via l'appli et recevoir votre caisse de vin.
Pas mal.
Et pour peu que le producteur ne soit pas référencé dans l'appli, eux vont se mettre en relation avec vous, d'accord, avec eux plutôt, ouais, et vous recevez dans les 48 heures un message vous indiquant si effectivement ils ont réussi à conclure une affaire et si vous pouvez passer par eux pour acheter.
Merci. Parfait. Moi je l'utilise Wine on Demand et Vivino d'ailleurs au restaurant, c'est génial quand on arrive dans un petit resto,
oui, qu'on a une bonne bouteille.
Ça nous arrive d'avoir des serveurs qui nous conseillent vachement bien, qui nous sortent une petite bouteille qu'on connaît pas. Bah voilà, on l'enregistre au moins et puis on sait qu'on l'a en stock.
Parce que sinon, la retrouver, c'est mission impossible.
Voilà, pour les petites découvertes.
Et vous allez chez un caviste, vous avez une chance sur 10 qu'il
l'ait. C'est malin hein, comme système. Hein.
Moi, je trouve ça génial.
Alors, autre phénomène actuel, ce sont les vins naturels. Alors, je me suis fait remonter les bretelles récemment, d'ailleurs, par un caviste qui m'a dit « c'est pas des vins naturels, parce qu'il se fait pas tout seul, le vin. » Bon, bref, les vins nature ou naturels, donc désolé si je déforme. Mais ce sont des vins qui sont faits, c'est pas des vins bio, on va dire que c'est quasiment mieux que le bio. C'est sans ajout, en fait, de soufre, etc. Donc, c'est des vins sans sulfite. L'un des avantages, outre le fait qu'ils donnent moins mal à la tête, bien souvent le lendemain, c'est que vous retrouvez vraiment le goût du vin. Et là, vous avez une appli, Raisin Digital, qui vous permet de retrouver non seulement les cavistes, mais aussi les restaurants où vous allez pouvoir, comme ça, boire du vin naturel. Bon, à savoir, généralement, par contre, le vin naturel, c'est un vin qui va se conserver moins longtemps, puisque les sulfites, c'est justement ce qui permet, entre autres, au vin de se conserver et de rester dans votre cave des années.
Le vin naturel, bon, après, il faut voir s'il y a de bons vins, quand même. Hein,
parce que
c'est comme le bio, hein, ouais. Il y a des vins bio qui ne sont pas bons. Hein.
Alors,
oui, mais là, on est au-delà du vin bio. Le vin bio, déjà limite, l'utilisation des sulfites, voilà, et des pesticides, etc. Ouais. Mais là, vraiment, le vin naturel, c'est sans adjuvant, sans soufre, donc
d'accord. Voilà. C'est du cidre.
Alors, après,
je dis n'importe quoi, le cidre, c'est avec la pomme. Après, c'est du jus de raisin. En fait.
Voilà, alors après, attention, si vous tombez sur une mauvaise bouteille de vin naturel, justement, un caviste me disait qu'il avait travaillé avec un producteur, il disait que son vin, il avait l'odeur de la bouse de vache, quoi. Donc, je lui ai dit un petit peu de soufre dedans.
Oui, et, allez, c'est reparti.
Quand même, là, voilà. Mais c'est à découvrir. Et enfin, puisqu'on parlait de conserver son vin, moi, je vous conseille aussi, c'est un peu le service après-vente de vos emplettes, c'est l'application Smart Cave pour savoir dans quelles conditions entreposer vos vins, classer vos bouteilles, savoir à quel moment boire une bouteille, parce qu'il y a un avant, il y a un après, puis
il y a
le plateau.
C'est vrai.
Pas le boire trop tôt, faut pas le boire trop tard. Donc il y a toujours un bon moment pour
autant
ouvrir
en profiter,
bouteille.
Oui, durant
autant
la bonne fenêtre.
En profiter dans les meilleures conditions pour un bonne soirée ou un bon dîner.
Exactement.
Bien arrosé, à consommer avec modération.
Bien sûr.
Bien évidemment, contrairement à notre magazine qui, lui, est à consommer sans modération.
Voilà, Zéronet Mag dans les kiosques actuellement, les amis. Merci beaucoup, Jean-Marie.
Merci, François.
Merci encore à Raphaël.
Merci, François.
Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Vous restez là, hein, De quoi je me mêle se poursuit dans un instant. On va découvrir ensemble avec Adrien Branco les nouvelles de GoPro avec deux caméras et puis un drone, le drone Karma. Et puis juste après, quelques conseils si vous cassez l'écran de votre smartphone. Aujourd'hui, pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez le changer vous-même en toute sécurité. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel.
Voilà, dans un instant dans De quoi je me mêle, on vous donnera des conseils pour réparer votre smartphone, votre iPhone dont l'écran est complètement pété. Vous pouvez soit l'apporter dans un magasin et payer plus d'une centaine d'euros, soit le faire vous-même et ça risque de vous coûter beaucoup moins cher. On en parlera avec Victor Jakimovic. Mais dans l'immédiat, dans ce De quoi je me mêle, eh bien, nous allons parler de GoPro. GoPro qui se faisait plutôt silencieux ces derniers mois. Eh bien, ça y est, à l'approche des fêtes de fin d'année, GoPro sort l'artillerie lourde avec deux nouvelles GoPro, mais aussi et surtout un drone qui s'appelle Karma. Adrien Branco est à mes côtés. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Journaliste à la rédaction de Zéronet.com. Adrien revient de Californie. Tu viens d'assister à la présentation presse donc, de GoPro. Pas mal de nouveautés. Avant de rentrer peut-être dans les détails... GoPro était un petit peu malmené, j'ai l'impression, ces derniers temps.
GoPro était malmené sur les marchés et, in fine, en bourse. Parce que GoPro est une des sociétés jeunes qui a connu une explosion incroyable.
C'est-à-dire que tous les jeunes, il y a encore quoi ? Il y a peut-être deux ans, voulaient une GoPro.
Tout à fait.
Et puis d'un coup, le soufflet est retombé.
Oui, pour plusieurs raisons.
Il y a une concurrence folle.
La concurrence est dingue. De gros acteurs sont arrivés. Il faut citer Sony, hein, parce que c'est vraiment le concurrent majeur en termes de qualité d'image. Il va y avoir aussi Olympus, qui vient de lancer sa première caméra. Nikon qui lance ses caméras 360 et GoPro et tout ça. Et de l'autre côté, cette concurrence a fait que l'action GoPro elle a bien dévissé. Et comme ce n'est pas un industriel, c'est allé très vite. Et du coup, il fallait qu'ils se réveillent et c'est ce qu'ils ont fait.
Là, ils se sont bien réveillés, hein, visiblement. Alors, on va découvrir dans un instant les deux petites caméras que j'ai ici. Regardez, voilà, c'est les toutes nouvelles GoPro. On va les découvrir dans un instant. Hein. Vous les voyez peut-être pour la première fois. Elles ne sont pas encore sorties en France.
Non,
tu les as ramenées des USA.
Oui, tout à fait. GoPro nous les a données hors boîte parce que dedans le tas, il n'y a pas que des journalistes, il y a aussi des blogueurs, des influenceurs. Donc, je pense que GoPro ne voulait pas que ces gens-là les revendent. Donc, ce sont des modèles finaux. C'est la Hero 5 Session et la Hero 5 Black, qui est donc le modèle haut de gamme.
Mais auparavant, quand même, le clou du spectacle de cette présentation,
c'était Karma.
C'était Karma. Ça y est, GoPro, alors on s'en doutait, hein, il y avait des rumeurs qui circulaient depuis des mois et des mois.
C'est plus que des rumeurs. Il y a une annonce depuis l'an dernier avec une espèce de teaser d'une image aérienne en disant « Karma arrive
voilà. ».
Ça fait un an qu'on attend Karma et ça fait un an que GoPro distille une image, une vidéo comme ça pour dire « Attention, on est bientôt là
». Et donc Karma, c'est un drone.
Il y avait un gros risque. Voilà. Ça, là, on voit Karma. Pour ceux qui ont la chance de regarder la vidéo, donc là, vous voyez la vidéo intégrée. La vidéo intégrée, c'est tout simplement celle d'une GoPro, que ce soit une GoPro 5 Session, une GoPro 5 Black ou même la GoPro 4 Black Edition. Donc c'est un drone modulaire, comme je vais vous l'expliquer après. Vous voyez, on peut enlever des éléments, on peut changer rapidement la batterie. Et c'est surtout un produit incroyablement bien fini. Et ça, c'est une vraie différence. Le marché du drone mondial est vraiment dominé par la Chine. C'est la Chine qui domine avec de gros acteurs tels que DJI qui fait des drones d'entrée de gamme et professionnels.
En plus, ils ont acquis un vrai savoir-faire.
On n'a rien de temps. Alors, probable chance. Alors, je ne sais pas si on la voit sur la vidéo. Je ne suis pas sûr qu'il soit là. Il y a un ingénieur qui vient des drones militaires. Voilà, donc ils ont, ils ont ratissé large pour récupérer de vrais talents. Là, vous voyez, l'un des arguments phares de ce drone-là, c'est cette télécommande.
Alors, pour tous ceux qui sont avec nous en audio, c'est une télécommande qui ressemble à une console de jeu portable,
Si vous connaissez la Nvidia Shield, c'est un peu la même chose.
Voilà, c'est ça.
C'est effectivement une console de jeu portable.
Avec deux petits joysticks, un écran LCD, j'imagine.
OLED.
C'est vrai que la qualité a l'air pas mal du tout. Et donc, l'idée, c'est qu'avec cet écran, on va pouvoir voir en temps réel ce que filme le drone.
Il y a un retour vidéo, on va pouvoir piloter le drone, en fait. Tu disais qu'il y avait deux joysticks, il y en a trois. Il y en a un troisième qui sert de gâchette, qui permet d'orienter la caméra pendant qu'on vole.
Ouais.
Et c'est vraiment le premier truc qui surprend avec Karma, c'est que tout a été correctement pensé. J'ai un peu envie de dire que là, GoPro l'a joué un peu Apple. Ils n'ont pas le drone qui monte le plus haut, qui va le plus loin, peut-être qu'il ne va pas le plus vite, encore que 54 km/h, c'est pas mal. Mais ils ont vraiment le produit fini, le mieux léché et le plus abouti de ce que moi, j'ai vu en tout cas.
D'accord. Ce drone, en plus, a mis du temps avant d'être commercialisé. Hein. Tu le disais, ça fait plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années que GoPro travaille sur ce drone. Qu'est-ce qui diffère par rapport des drones haut de gamme de chez Parrot, par exemple ?
Alors déjà la partie vidéo, parce que chez Parrot vous avez une partie vidéo intégrée hein, où il y a un stabilisateur un peu numérique et surtout la qualité d'image GoPro avec les modes, en tout cas pour les professionnels ou les experts, les modes ProTune, donc c'est la 4K 30 images par seconde. Avec...
On commence à taquiner le professionnel, c'est ça ?
Oui. Oui, pas une production de news en cinéma, peut-être pas. Bien sûr, en cinéma, on va faire voler des octocoptères avec de vrais réflexes. Voilà. Mais par exemple, pour du news, pour BFM, hein, si on parle de la maison BFM ou RMC, bien sûr que ça peut tout à fait être utilisé dans du news pour faire de beaux plans. Le plan que j'ai ramené de 4 minutes où on voit la vidéo qui sort de la caméra, c'est complètement exploitable en production télévisuelle.
C'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc la portée, c'est
1 km.
Ouais. C'est-à-dire qu'on voit jusqu'à 1 km ce qui se passe, ce que filme le drone.
En flux dégradé au fur et à mesure que la distance s'étend, bien sûr. Ouais. Mais oui.
C'est quoi, c'est du Wi-Fi là, la transmission?
Non, c'est de la... Alors il y aurait une partie Wi-Fi, mais il y a beaucoup d'HF. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup finalement de signal radio qui permet d'avoir une portée bien supérieure. D'accord. Et moins sujet aux parasites. Cela dit, ne vous placez pas derrière un humain, car on est composé d'eau, et l'eau, bien sûr, atténue énormément le passage des ondes. Donc, en portée directe, en vue directe, c'est environ 1 km, voire un peu plus, m'a dit l'ingénieur.
GoPro table aussi sur une autonomie de 20 minutes, c'est beaucoup pour un drone. Hein,
c'est beaucoup pour un drone aussi lourd, parce qu'il est vraiment très très dense, la batterie est massive, c'est une batterie à lithium qui va coûter aux alentours de 100-150 €, les prix ne sont pas encore arrêtés, et effectivement 20 minutes c'est considérable, sachant que c'est 20 minutes de vol total, parce que dès qu'on commence à arriver à 20%, on a une première alerte. Et aux alentours de 15%, il y a une procédure, entre 15 et 10%, une procédure de retour automatique pour éviter que
le drone se perde quelque part.
Tout à fait.
Donc, est-ce qu'il est intelligent, ce drone ? Est-ce que, par exemple, il peut suivre ?
Non, pas encore.
Pas encore ?
Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de VR. Pour la VR.
Parce que c'est vrai que de plus en plus d'acteurs essaient de travailler justement sur ça, hein, sur des drones qui peuvent nous suivre. Par exemple, pour des sportifs qui sont tout seuls,
c'est du logiciel.
C'est une vraie tendance. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que ce drone puisse être mis à jour
pour ça. J'ai posé la question à l'ingénieur.
Pour voir s'il a ses capteurs, en fait, s'il a des capteurs.
Les capteurs, il les a, parce qu'on, de toute façon, on ne fait pas voler un drone, en fait. On fait se déplacer un drone. Que vous prenez un chasseur. Même maintenant un avion de ligne ou un drone, il y a déjà tous les capteurs sont en plein travail, en permanence, plusieurs milliers de fois par seconde pour stabiliser les trajectoires. C'est ça la grosse différence.
Oui, c'est des aides au pilotage.
Elles sont en permanence activées. Reprenez les avions des années 30, 40, où il fallait les stabiliser, où c'était vraiment quelque chose de physique. Là, on y va avec le joystick, on se doute bien qu'il y a un travail passif qui est fait en permanence.
Donc
j'ai posé la question.
Ouais.
On m'a dit... Techniquement, peut-être, oui, ça serait envisageable.
D'accord, donc on peut imaginer peut-être qu'il y aura une mise à jour sympa. Il coûte combien ce drone ?
Alors, il coûte 830 € en France sans caméra. Et il sera lancé, il y aura un seul bundle caméra qui sera avec la Hero 5 Black Edition, où il sera à 1 200 €. Aux États-Unis, plus gros marché, encore plus segmenté, il y aura une version avec la petite sœur, la Session. Et il y aura aussi un bundle avec la Hero 4 Black Edition de l'ancienne génération, uniquement chez Best Buy, pour avoir une offre, un prix d'appel plus sexy.
800 € pour un drone de cette qualité, ça te paraît quoi ? Raisonnable ou un peu exagéré ?
Non, moi ça me paraît raisonnable. Ça me paraît raisonnable sur deux plans. Primo, on a bien tapé sur GoPro avec la génération précédente parce que leur caméra était trop chère. GoPro a pu râler dans ce qu'on a écrit. N'empêche que les consommateurs ne sont pas trompés. Ils ont acheté beaucoup de concurrents parce que GoPro était effectivement trop cher. Là, pour 800 €, on va dire 1 200. On a quand même un appareil.
1 200, c'est avec une caméra.
Voilà. Avec 1 200 €, on l'a avec le haut de gamme de leur caméra qui filme en 4K, qui filme en Full HD à 120 images par seconde. On a un drone qui vole 20 minutes. On a une vraie offre complète, c'est-à-dire qu'il est livré, comme vous l'avez peut-être vu, dans une espèce de sac à dos, une sacoche renforcée qui est un sac à dos, donc il est facilement transportable. Il est de très très bonne fabrication, la qualité est top. Il y a beaucoup de détails qui sont soignés et il a une télécommande qui est juste magique. Elle est magique. C'est-à-dire que la qualité de finition est excellente. Là, vous voyez que le soleil tape fort. Il n'y a aucun moment j'ai eu besoin de plisser les yeux pour voir sur l'écran. C'était très lisible. La réactivité est vraiment parfaite et elle offre des à-côtés qui sont incroyables. Il y a un mode de simulateur pour s'entraîner. On vient d'acheter un truc à 1 200 € en balle, on ne veut peut-être pas le faire tomber.
Bien sûr.
Il y a un mode simulateur et il y a un mode d'écran déporté. C'est-à-dire que moi, je pilote, toi avec ton iPhone, tu t'es connecté à ma manette et c'est toi qui vas faire piloter la caméra. D'accord. Quand tu me, ah oui, tu me disais.
On peut être à deux.
Un peu pro, bien sûr. Ouais, moi, je me concentre vraiment sur le vol.
Sur le pilotage. Et moi, je vais piloter la caméra.
La caméra.
D'accord. Est-ce que je peux piloter le drone avec un smartphone, sans la télécommande?
Là, je sais. Je crois que non. Non, je crois qu'ils ont fait l'impasse. Ils ont fait l'impasse.
D'accord. Ouais. Peut-être aussi un mot sur la petite caméra. Donc, on a parlé de la grande, mais la toute petite, qui est donc, on va dire, l'entrée de gamme de la nouvelle génération, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à, à l'autre, à celle-ci en fait.
Alors, voilà. Par le passé, on va rappeler par le passé. Par le passé, la version Black filmée en 4K, la version session était limitée en 1080p, donc Full HD. Désormais, sur le plan technique, ces deux caméras sont identiques. C'est-à-dire qu'elle tourne enfin en 4K, elle a le mode ProTune, elle a tout ce qu'il faut.
Je ne verrai pas de différence de qualité d'image entre
les
deux.
Non, la différence de qualité d'image, en théorie, tu ne vois pas la différence. Par contre, la grande sœur s'inspire de la petite. Anciennement, la session, c'est la première à avoir été étanche sans caisson. Donc désormais, la Black Edition est étanche sans caisson. La petite, ce qu'elle a en moins, elle n'a pas l'écran que tu vois au dos, cet écran LCD tactile très lumineux. Ça aussi, hein, ça change. Avant, c'était un accessoire qui coûtait 100 ou 150 euros.
Et qui est tactile. Hein.
Oui, et alors il l'est. Et peut-être que je l'ai bloqué, non. Hop, je ne sais pas si les gens peuvent le voir.
Bon, c'est pas important ça, Adrien. Ouais. Juste, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'en plus, il réagit à la voix.
Oui, tout à fait.
Donc on peut en parlant.
GoPro enregistre vidéo. Voilà, l'enregistrement est parti.
Vous avez peut-être entendu le petit bip. Ça y est, l'enregistrement est. Alors, GoPro arrête la vidéo.
GoPro arrête vidéo. Voilà.
On voit que c'est toi le maître, hein, quand même. Hein.
Et c'est surtout que c'est arrête la vidéo avec là, je pense que tu l'as perdu.
Oui, j'ai perdu.
C'est quand même un ordinateur, c'est pas très intelligent.
Bon, alors les prix de ces deux caméras, sans le drone. Hein.
Que je dise pas de bêtises, je crois qu'elle est à 400 ou 450, le haut de gamme, et 300 ou 350 pour la session. Mais là, je m'en rappelle plus.
Bon, en tout
parce
cas.
Que je connais les prix en dollars, mais en plus, ils sont pas pareils.
Tout ça est disponible pour Noël, enfin, même avant Noël. Hein.
Mmh, oui, les caméras et le drone. Celles-là, elles seront disponibles à partir de la semaine prochaine, elles arrivent en magasin.
D'accord.
Le drone arrive soit le 22, soit le 23 octobre.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, voilà, ça y est, GoPro revient dans la course avec des produits visiblement de qualité. On aura l'occasion, bien sûr, de les tester en profondeur. Adrien, tu y reviendras dans les semaines qui viennent sur zeronet.com. Merci beaucoup.
Eh bien, je t'en prie.
Adrien Brocco, donc de la rédaction de zeronet.com. Vous restez avec nous. Dans un instant, on terminera ce De quoi je me mêle avec Guy Torjakimovic qui va nous donner des conseils pour réparer votre smartphone si l'écran est cassé. Eh oui, ça arrive. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel.
Toute l'actualité des nouvelles techno, c'est De quoi je me mêle, bien sûr. On est là chaque vendredi. Regardez ce téléphone, cet iPhone. Ah, c'est pas joli, joli. Hein. Eh ben oui, il est tombé par terre. Notre collaboratrice Noémie le regrette encore. On n'y peut rien. Et on sait que les smartphones, d'une manière générale, et en particulier les iPhones, sont très fragiles. Eh bien aujourd'hui, on va vous aider. On va vous aider parce qu'il est possible de réparer son smartphone très facilement. Et c'est Victor qui va nous en parler. Salut Victor.
Salut François. Il est possible de réparer soi-même son iPhone et à un prix tout à fait décent.
En plus, et c'est ça la nouveauté, c'est que,
ah bah ouais.
Alors, évidemment, les bidouilleurs, les geeks sur Internet peuvent depuis des années aller sur eBay, machin, le bon coin, trouver des pièces, etc. Mais on va vous présenter un truc là qui est génial. Vous faites tomber votre smartphone, vous n'avez plus de batterie parce qu'au bout d'un moment, la batterie s'use sur votre téléphone. Vous allez pouvoir le démonter facilement avec un boîtier qui contient tout pour le réparer. C'est ça la nouveauté.
Voilà, alors c'est une boîte française, Remade, qui est une boîte qui est localisée près d'Avranches, en face du Mont-Saint-Michel, très bel endroit,
oui.
Très très bel endroit,
qui
depuis quelque temps déjà commercialisait des iPhones refabriqué, remade.
Oui, c'est ce qu'on appelle le refurbish, quoi.
Oui,
voilà, qui sont reconditionnés.
Qu'ils reconditionnaient, voilà. Qu'ils garantissaient. C'est une boîte assez grosse, 250 ingénieurs techniciens. Enfin bon, on est.
Il y a un vrai business là-dessus. Hein,
parce qu'aujourd'hui, oui.
Vous prenez un iPhone qui est un peu cassé ou machin, vous changez 2-3 pièces dedans, ça a une valeur incroyable hein, sur le marché de l'occasion.
Tout à fait. Mais ce qui est nouveau, donc, en l'occurrence, maintenant, c'est qu'ils ont sorti ça. Ça, c'est-à-dire des kits que l'on va trouver en grande surface, que l'on va trouver en magasins spécialisés, les Darty, les Boulanger, les Fnac et autres, et tous ceux qui voudront bien, qui sont un kit complet de dépannage ou de remplacement, en l'occurrence, de sa batterie ou de son écran, c'est-à-dire les deux pièces.
Je fais tomber, typiquement, Victor, pour qu'on comprenne bien, cet iPhone, on se dit, on va dans une boutique aujourd'hui,
ouais.
Je peux le faire, je peux faire changer l'écran, ça va me coûter au moins 100 euros.
On est d'accord. Au minimum.
Au minimum.
Ouais.
Parce qu'il y a de la main-d'œuvre, il y a l'écran, etc.
Oui.
Là, je veux le faire moi-même, je veux faire des économies. J'achète ce kit avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, ça me coûte combien ?
Alors, le kit écran qui comporte effectivement l'écran.
Ah oui, hein, ça c'est un écran neuf.
Ça c'est un écran neuf avec un Gorilla, un verre Gorilla.
Donc de la même qualité que le...
Presque mieux que de l'époque Apple.
Ah oui.
Avec les outils qui vont bien, les tournevis qui vont bien, les Bruxelles qui vont bien, l'outil spécial ouvre-écran, avec tout ça,
oui,
avec le mode d'emploi bien sûr, mais aussi en vidéo sur Internet, plein d'aides.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des tutos vidéo qui
films,
vous expliquent comment ça marche.
Des tutos vidéo, ça va vous coûter 70 euros et... Si vous renvoyez votre vieil écran, vous allez toucher pour un iPhone 5 20 euros de ce qu'on appelle un ODR, c'est les offres de remboursement,
d'accord,
qui correspond à l'effort de recyclage,
oui,
qui va être fait. Donc il vous en coûtera pour faire ce boulot 50 euros.
50 euros
pour changer l'écran.
Pour changer l'écran.
30 euros pour changer une batterie.
Bon, Victor, malgré tout,
oui,
il faut mettre les mains dans le cambouis.
Le cambouis, en l'occurrence, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux avoir les mains très propres.
Oui, il ne faut pas faire une route avant. C'est ça, en gros.
Voilà.
Bon, ça va,
ceci
ça
étant, ça n'est pas compliqué. C'est d'autant moins compliqué qu'ils livrent avec leur dispositif un kit qui est une feuille dans laquelle est précisé l'endroit où on doit prendre les pièces et où on pose les pièces, les vis en particulier. Cette feuille est scotchée de façon à éviter que les pièces ne glissent, ne tombent, ne se perdent. Une vis d'iPhone dans le sable, je ne vous dis pas, c'est introuvable.
Non, mais c'est-à-dire que là, il faut quand même être très précautionneux.
Il faut être très précautionneux.
Ouais.
On a les tournevis qui vont bien.
Il ne faut pas faire ça dans le TGV, quoi.
Non. Il faut... Mais ça se fait très facilement. Je dois dire que moi, je l'ai fait pour la première fois cet été,
oui,
sur
Victor, vous êtes quand même, un ingénieur, un technicien. Vous avez fait ça. Enfin, vous êtes pas Monsieur Lambda,
mais
on va
monsieur
dire.
Monsieur Lambda l'aurait fait plutôt mieux que moi, parce que moi, d'une part, j'ai souvent plus quelques années de plus que Monsieur Lambda, et que à mon âge, les problèmes de vision, voire de tremblement.
Mais vous prenez une grosse loupe là, vous savez, comme les horlogers qui trifouillent les montres.
Ok, mais bon, encore faut-il le faire. Non, c'est vachement
facile
quand on suit leur truc.
On peut pas se retrouver en pleine galère, quoi. Si on suit pas à pas.
Si on suit pas à pas, si on prend le temps de lire ou de suivre le tuto vidéo une, voire deux, voire trois fois, de façon à avoir bien identifié, bien compris, par exemple, qu'il ne faut jamais passer l'écran au-delà de 90 degrés du téléphone parce qu'on casse le contact. Bon, mais ça, c'est précisé
d'accord,
clairement. Encore faut-il l'avoir entendu.
Il faut combien de temps ? Une heure ? Deux heures ?
Ah non ! Un changement de batterie, sur le site un changement de batterie sur iPhone 5, il y a un mec qui fait ça en temps réel. Alors, un mec du site, hein.
Ouais, d'accord.
Le gars, il
fait ça tout le temps.
Une minute 45. Bon, moi...
1 minute 45, le mec, il...
Ouais.
Non, mais...
Moi qui étais...
Accéléré ?
Non, vitesse normale.
Ouais.
Moi qui étais très précautionneux,
ouais,
qui ai pris mon temps, je dois dire que j'étais quand même un peu stressé.
Mais bien sûr.
Je changeais la batterie du téléphone de ma femme, elle m'en aurait parlé, je vous dis pas. Bon.
Ah non, mais alors là, franchement, vous auriez passé un mauvais quart d'heure. Hein.
Ça m'a pris un quart d'heure.
Victor, la batterie !
Ça m'a pris un quart d'heure.
Un quart d'heure, ce qui est correct.
Raisonnable.
Donc, qu'est-ce qu'on peut changer comme, on va dire, élément principal ? L'écran, la batterie ?
Oui.
En général, c'est les deux problèmes.
C'est les deux problèmes.
Oui.
Hein. La batterie, elle a un vieillissement. Il faut savoir qu'une batterie, théoriquement, ça fait, en théorie, on dit un millier de cycles. Un cycle étant une charge, des charges complètes. Mais c'est théorique. D'abord, au bout d'un millier de cycles, il est évident que la batterie
oui,
n'a
perdu
plus
un bon paquet d'autonomie.
La puissance qu'elle est capable d'avoir, la capacité qu'elle est capable d'avoir.
Mais on commence à le voir, vous savez quoi?
À parfois, ce sujet, oui, pardon.
Parfois, on voit que l'indicateur de batterie, vous savez, qui est en pourcentage hein, sur l'iPhone, si oui. Il fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on passe, on va paraître de 40 à 60, et puis après, on retombe à 30
ouais.
très vite.
Ceci étant, il est déjà faux, cet indicateur.
En plus.
Il est déjà faux parce qu'il ne tient compte que de la capacité de ce que la batterie qui est sur l'iPhone est capable d'accepter. Mais la batterie sur votre iPhone, elle vieillit. Oui. Sa capacité qui était de 100% quand vous l'avez acquise, capacité réelle de 100%,
oui,
en réalité, et pour ceux qui regardent, là, on a des images.
Alors
il y a
ça, c'est
un
une
logiciel.
Appli. C'est une appli qu'on vous conseille de télécharger, qui s'appelle Battery Life.
Battery Life,
voilà.
Dans lequel on
qui est
a...
gratuit hein, sur iOS. Ouais. Ça doit exister sur Android aussi, j'imagine.
Écoutez, comme vous savez, je suis...
Mais attendez, sous Android, il y a tout, donc ça existera forcément.
Ouais.
Battery Life. Et donc là, ça va nous donner l'état de vieillesse de notre
réel,
batterie.
L'état réel de la batterie, c'est-à-dire quelle est sa capacité nominale oui. et combien fait-elle en réalité, et à part ça, combien vous en avez utilisé de ce qu'elle est capable de faire.
Mais typiquement, regardez,
elle
moi je l'ai installé,
sur mon... de cycles aussi.
Regardez, moi typiquement, je l'ai installé sur mon iPhone qui a un an,
ouais.
tout pile, donc c'est un 6S Plus. Je me retrouve là avec une batterie. Je ne sais pas si Pierre peut passer sur le... Voilà, on est en train de faire la mise au point. Ma batterie, en fait, est un état moyen. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, j'ai perdu 13%. J'ai 13% d'usure de ma batterie. Voilà.
Et
vous, elle est très bonne.
Et moi, j'ai très bon.
Je suis un peu jaloux.
C'est-à-dire qu'au bout d'un an, je n'ai perdu que 4% de ma batterie.
Ouais, mais parce que vous êtes pistonné, Victor.
Je ne suis pas pistonné. Et alors, on a bien sûr les détails du pourquoi, du comment. Bon, c'est l'écran que l'on voyait tout ailleurs. Il est parti.
Mais parce qu'il y a de la pub.
Il y a de la pub.
Enfin bon, l'idée c'est que en téléchargeant cette appli qui est gratuite, où il y a un petit peu de pub, vous saurez où en est l'état de vieillissement de votre batterie.
Absolument.
Bon, on referme la parenthèse là-dessus. Pour revenir donc sur le fait que ça se change facilement.
Facilement. Si on respecte
sur tous les iPhones,
tout ce qu'il faut, ils font ça à partir de l'iPhone 4.
Donc 4, 5, 6.
Oui, les 6 Plus, pas encore, parce qu'ils n'ont pas jugé ça nécessaire pour le moment, mais ça viendra. Maintenant que le 7 est sorti, il va falloir...
Donc il y a le 6 et le 6S, mais pas le 6 Plus, pas les grands modèles, c'est ça ?
Ouais.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres smartphones, d'autres marques qui
auront
des kits comme ça ?
Eux sont les premiers que je trouve qui ont une offre aussi qualitative, réellement. J'ai discuté avec eux, est-ce que vous le faites pour d'autres marques ? Leur réponse a été non, parce que le marché de l'occasion hors iPhone est très mauvais.
D'accord, même les Samsung
et
les Galaxy S6, S7, c'est dingue, pourtant ce sont des smartphones qui coûtent de l'argent. Hein.
C'est eux qui le disent,
moi.
Ouais, hein. Ils se sont focalisés sur iPhone, ils font fabriquer, voilà la batterie, ça c'est la batterie d'origine,
oui.
celui du fameux téléphone de ma femme que j'ai changé. Ils se sont focalisés donc sur iPhone.
Voilà, on la montre, petite batterie de l'iPhone.
Avec tous les outils qui vont bien. C'est vraiment très bien fait et c'est nouveau qu'on puisse trouver ça maintenant en magasin, réellement prêt à l'emploi.
D'accord. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Si vous avez votre smartphone qui est pété, on se rend compte
peut-être...
Mine de rien, on fait 50% d'économie minimum par rapport à une boutique qui fait ça. Alors,
absolument.
Évidemment, on n'est pas en train de casser le business des boutiques qui le font très bien, très sérieusement. Ça coûte un petit peu plus cher, mais au moins, on n'a pas à démonter tout ça et on n'a pas ce stress. Hein.
Je pense qu'il y a... un peu stressant.
Non, mais c'est vrai. Après, tout dépend si on se sent, si on est courageux, si on a envie de le faire.
Ouais, j'aimerais donner un seul conseil
oui.
pour la conservation des batteries en bon état.
Super important, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Le truc le plus important... Alors, on trouve tout et n'importe quoi comme information sur Internet. On trouve des rappels à des technologies de batteries qui n'ont plus rien à voir avec
oui.
les batteries actuelles. Les batteries actuelles, c'est-à-dire les batteries au lithium, celles que l'on a aujourd'hui, ce n'est pas celles qu'on avait il y a 3 ans ou 4 ans. Le matériau des électrodes en particulier a changé. Il y a plein de choses qui ont
changé. Donc, le conseil, Victor ?
Donc, s'il doit y avoir un conseil et un seul, le truc le plus important pour conserver une batterie en bon état, c'est de se méfier du chauffage, se méfier de la température. Ne laissez pas vos batteries au soleil, ne les laissez pas dans une bagnole en plein soleil où ça va monter à 50 degrés. Là, vous dégradez votre batterie à
d'accord.
une vitesse folle.
La chaleur est l'ennemi
la
de la batterie.
La chaleur est l'ennemi des batteries lithium-ion. Vous qui passez des vacances en Corse et qui mettez votre téléphone systématiquement au soleil derrière l'écran, derrière le pare-brise de la voiture.
Ouais, c'est pas bien.
C'est peut-être ça qui fait en sorte que moi, j'ai 4% sur ma batterie.
C'est sûr que côté soleil, vous n'avez pas de problème en Bretagne.
Mais d'accord. Si, j'ai du soleil, il y en a plein.
Oui, d'accord. Bon, voilà, un petit joke entre nous.
Remade in France, s'il vous plaît.
Parfait. Et très bien. Franchement, c'est une super solution. Et je suis persuadé, vous qui nous regardez, que si votre smartphone, comme celui de Noémie, voilà, c'est juste pour nous faire un petit peu mal encore une fois, est complètement pété, eh bien, mais peut-être que ça vaut le coup de tenter le coup.
Si elle avait mis une vitre...
Allez, la pauvre.
Peut-être que c'est la vitre qui aurait cassé. Vous savez, ces fameuses vitres de protection, peut-être que c'est la vitre qui aurait cassé.
Donc ça, vous le conseillez aussi quand,
oui,
on achète,
oui,
quand on a un smartphone
oui,
neuf,
oui,
on
oui,
achète
oui.
cette vitre de protection qui coûte un bras d'ailleurs. Hein.
Oh, ça coûte entre 20 et 30 euros suivant les marques et
il
les modèles.
Il faut bien la poser, mais ça, si on fait tomber le téléphone... Ça va amortir certains chocs.
Il y a des chances que ce soit elle qui pète.
Enfin, moi, j'ai vu des smartphones péter alors qu'ils avaient une vitre. Hein.
Mais ça arrive, tout arrive. Mais c'est une protection.
Supplémentaire.
Absolument.
Victor, merci. C'était super intéressant.
Mais écoutez, ravi, François.
Et on se retrouve évidemment très vite dans De quoi je me mêle. De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous suivre comme chaque vendredi. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. RMC.fr, la version audio et la version vidéo sur Zéronet TV. À très vite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net.tv.